France Inter.
Aujourd'hui, Avatar de Pandora à la Terre, comment habiter une planète fragile, raconté par...
Éric Pitroux, anthropologue, directeur de recherche au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Demain sortira sur les écrans le troisième volet du blockbuster Avatar intitulé De feu et de cendre. James Cameron nous entraînera une nouvelle fois sur la planète Pandora pour 3h15 de grand spectacle, un record dans la saga. Mais derrière la durée et la démesure technologique, Avatar s'est imposé depuis plus de 15 ans comme bien davantage qu'un simple divertissement. Car si cette saga continue de captiver des centaines de millions de téléspectateurs et de spectateurs à travers le monde, ça n'est pas seulement pour ses images ou ses prouesses techniques, c'est parce qu'elle raconte quelque chose de profondément contemporain. Notre rapport au vivant, aux technologies, au territoire, à la violence et à la colonisation, mais aussi aux manières possibles de cohabiter sur une planète aux équilibres fragiles. Pandora n'est pas seulement une planète imaginaire, elle fonctionne comme un miroir décalé de la Terre, une autre scène où se rejouent des questions très réelles, comme l'extractivisme, la destruction des milieux de vie, la confrontation entre des sociétés industrielles et des peuples enracinés dans leur environnement, mais aussi la possibilité de relâcher plus attentive entre humains, non-humains et écosystèmes. En plongeant le spectateur dans une expérience immersive, Avatar ne se contente pas de raconter une histoire, il provoque une réflexion qui se prolonge bien au-delà de la salle de cinéma. Une réflexion sur les corps que nous habitons, sur les mondes que nous construisons, sur les techniques que nous déployons pour survivre, parfois au prix de la destruction de ce qui nous fait vivre. Pourquoi Avatar est-il devenu un phénomène culturel mondial capable de nous aider à penser une question centrale de notre temps, comment habiter notre planète aujourd'hui, c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
La voix de l'eau n'a ni commencement, ni fin. La mer est ta maison, avant ta naissance et après ta mort. Nos cœurs battent dans les entrailles du monde. Notre souffle brûle dans l'ombre des profondeurs. La mer donne et la mer prend. L'eau relie toutes choses.
Extrait d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Bonjour Éric Pitroux.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans la Terre au carré, vous qui publiez aux presses universitaires de France. Comment habiter notre planète, une lecture d'Avatar. Avant d'en parler, à l'occasion donc de la sortie du troisième volet demain, qu'est-ce que d'abord un anthropologue spécialiste de l'anthropologie de la vie?
Alors c'est un anthropologue qui s'intéresse à la façon dont les humains réfléchissent sur le pouvoir qu'ils exercent sur le vivant.
Donc ça existe.
Ça existe.
On en trouve.
Donc les humains partout voient des processus comme la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort. Et ils exercent des actions sur les animaux, sur les végétaux, dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, dans le cadre de la médecine. Ils prennent soin de leurs enfants aussi. Donc ils voient bien qu'ils exercent un pouvoir sur le vivant. Dans le même temps, ils ont la conscience intime que ce pouvoir est limité. Et qu'ils peuvent déployer tous les efforts qu'ils souhaitent ou qu'ils peuvent, ils ne réussiront pas toujours à garantir que les êtres vivants resteront en vie. Et c'est pour ça que dans toutes les sociétés qu'on observe, on se rend compte qu'il y a une façon de penser qu'il y a un pouvoir de faire vivre qui est en dehors du pouvoir des humains. Et ce pouvoir, classiquement, était donné à des divinités ou à des entités de la nature. Mmh. Et aussi, désormais, pour le monde occidental, est donné à la nature en tant que force productrice de vie.
Et donc, Avatar est un bon objet pour un anthropologue de la vie comme vous?
Alors, effectivement, c'est un excellent objet. Alors, à plus d'un titre, justement, sur cette question du pouvoir de vie, ce qu'explore, en fait, le personnage de Jake lorsqu'il arrive sur Pandora, il découvre une société qu'il ne connaît pas. Donc là, il y a une expérience qui est très proche de l'anthropologie, dans le sens où il va mener une enquête dans les conditions de l'observation participante. Il va découvrir une nouvelle culture. Et la découverte de cette nouvelle culture passe par la compréhension des relations que les Na'vi, donc ce peuple anthropoïde qui vit sur Pandora, et la relation qu'ils établissent non seulement avec les êtres vivants, les animaux, les végétaux, mais aussi avec une entité qui s'appelle Eiwa, la terre-mère, qui précisément dispose du pouvoir de vie. Et ils sont obligés de passer par une bonne entente avec cette entité pour pouvoir organiser leur existence collective.
Et pour vous, Pierrick Pritrou, ça a été vraiment une rencontre avec ce film. Quand vous l'avez vu la première fois, vous vous êtes dit « alors là, j'ai quelque chose de formidable à explorer ».
Alors c'est plutôt, le projet est né davantage de mes enquêtes ethnographiques menées parmi des populations amérindiennes du Mexique.
Donc pas sur Pandora, mais bien sur le terrain de la Terre.
Bien sur le terrain de la Terre, sur la lecture aussi d'un certain nombre de travaux sur l'ethnologie amérindienne, dont Philippe Descola qui a dirigé ma thèse il y a quelques années et qui a beaucoup influencé ma compréhension des sociétés amérindiennes. Et donc j'avais déjà vu qu'il y avait ce partage en fait des pouvoirs entre ce que font les humains avec le vivant et les rites qui visent à faire alliance avec... Dans le territoire où j'étais, au Mexique, l'entité s'appelait « Celui qui fait vivre ». Et donc, on peut dire que Eiwa, c'est « Celle qui fait vivre ».
Ouais. Donc, quand vous avez vu Avatar pour la première fois, vous en gardez quel souvenir exactement ?
Alors, la première...
Ça a vraiment résonné pour vous ?
Alors, à ce moment-là, j'étais en fin de doctorat en anthropologie. J'ai surtout été embarqué en quelque sorte par l'immersion que ça a produit en termes visuels, en termes d'expérience de spectateur. Je n'avais pas encore, en quelque sorte, problématisé la question de l'anthropologie de la vie pour analyser ce film.
Oui, parce que vous écrivez dans votre livre qu'Avatar ne doit pas être compris seulement comme un film de science-fiction, mais comme une véritable expérience anthropologique. Hein. Donc cette expression, ça exprime justement tout ce que vous venez de nous dire. Là.
Tout à fait. Alors, c'est une expérience anthropologique en plusieurs sens. D'abord parce qu'il y a cette idée d'une immersion dans une société inconnue. Il y a aussi, dans le deuxième épisode, quelque chose qui est très intéressant. C'est l'idée qu'on compare en fait deux sociétés Navi, et donc cette démarche comparatiste est aussi au cœur de l'anthropologie. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle le film est très anthropologique et fait écho en fait à l'anthropologie de la vie, c'est qu'il aborde quatre questions que vous avez mentionnées au début, qui sont les questions des rapports interculturels, les questions de la protection des milieux de vie, question des biotechnologies, de leurs usages et de leurs limites, et la question de la guerre. Et en fait, dans l'ouvrage précédent que j'ai publié au PUF, qui s'appelle « Ce que les humains font avec la vie », j'ai repéré dans le domaine de l'anthropologie de la vie quatre grands courants qui traitent précisément ces quatre grandes questions. L'hypothèse que je fais dans « Comment habiter notre planète », c'est que le fait que ces grandes thématiques apparaissent dans le livre et apparaissent aussi dans l'anthropologie contemporaine, eh bien, correspond en fait à un changement profond de notre condition humaine, qui devient une condition planétaire, pensée dans la relation avec les vivants, et les pouvoirs de la vie.
Donc c'est ça aussi, quand on va justement au cinéma pour voir Avatar, on peut aussi en faire une lecture miroir qui nous dirige tout simplement vers notre planète Terre. Quoi. C'est ça aussi l'objet qui est intéressant. Hein.
Tout à fait, donc je pense qu'il y a une opération comparatiste qui est effectuée lorsqu'on... C'est une dernière dimension anthropologique, c'est cette, le fait que nous n'habitons pas simplement la planète physiquement, l'ordre de la fiction, de l'art, du jeu, nous font accéder à un autre degré de réalité qui nous permet aussi de comparer ce qu'on vit effectivement sur notre planète.
Donc c'est pas qu'une planète imaginaire, Pandora.
Eh ben c'est un jeu qui nous permet en fait de mieux nous comprendre, et donc c'est pour ça que dans le début du livre, j'explique que même si c'est une autre planète, c'est notre planète dans la mesure où elle représente un état historique dans lequel les humains ont pu être.
Vous n'avez pas vu le troisième opus qui sort demain encore, Pierrick Pritrou, n'avez pas eu cette chance?
Non, pas encore, mais j'irai à la première séance quand je pourrai, pour justement faire des analyses à chaud.
Alors, en attendant, nous avons des extraits du premier et du deuxième Avatar, Avatar 2, La Voix de l'eau.
Ce sont des êtres doués d'intelligence, peut-être même plus intelligents que nous. Non seulement ils sont plus intelligents, mais aussi plus sensibles, plus spirituels. Ils ont la musique, la philosophie, les mathématiques, et même un langage complexe. Ok, c'est parti.
Montrez-moi le pognon.
Alors vous faites tout ça pour ça?
Exact. L'Amrita.
Ces grosses bêtes n'ont pas de chance. Ce truc stoppe efficacement le vieillissement humain, ça l'arrête. Complètement.
L'Amrita, qu'est-ce que c'est exactement, Pierrick Pritrou, pour ceux qui n'ont pas vu
Alors, Avatar. C'est, dans l'épisode 2, c'est une substance cérébrale qui est contenue dans le corps des Tulkun, qui sont de grandes baleines, en fait, qui sont impitoyablement chassées. Donc, il y a des scènes absolument époustouflantes dans l'épisode 2, où ouais. on assiste, en fait, à cette sauvagerie, à cette violence humaine qui consiste à tuer ces animaux uniquement pour prélever moins d'un litre de ce liquide. Et après de jeter le corps de ces baleines. Et la raison, en fait, de cette chasse impitoyable, qu'on peut qualifier comme un écocide, eh bien, la raison de cette chasse, c'est que cette substance permet de stopper le vieillissement. Et donc, on a vraiment affaire à une bioéconomie dans tous les sens du mot, c'est-à-dire que c'est une économie qui se fonde sur l'exploitation du vivant, mais dont le produit permet aussi, en fait, d'agir sur la vie des populations sur Terre.
Pourquoi, selon vous, Avatar a suscité autant de prises de parole, et bien au-delà, d'ailleurs, de la critique cinématographique classique, et c'est ce qui vous intéresse vous aussi, évidemment, en tant qu'anthropologue, hein ?
Ben, je pense qu'il y a, dans la démarche de Cameron, met en place depuis le début, en fait, des univers extrêmement intégratifs, où il construit littéralement des univers à la fois pour ce qui concerne le milieu écologique, mais aussi les traits culturels des populations. Il y a une capacité, en fait, à créer des mondes. Et en fait, cette capacité est tellement bien effectuée, bien élaborée, que ça crée un effet de réel, même si c'est évidemment des univers de fiction, qui fait que beaucoup de spectateurs et d'intellectuels se sentent, en fait, obligés de se prononcer sur ce qui se passe sur Pandora, comme si c'était quelque chose qui existait véritablement.
Tellement ça touche la condition humaine, en réalité.
À mon avis, c'est une des raisons, c'est qu'en vérité, ça encapsule les grandes questions contemporaines. La question de la limite sur Terre, de la limite limites écologiques de la vie sur Terre. Il y a une autre thématique aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que, même si ça n'a pas complètement diffusé dans le grand public, la découverte des premières exoplanètes, il y a maintenant 30 ans par Didier Queloz et Michel Mayor, nous faut comprendre qu'il y a potentiellement des milliards de planètes autour d'autres étoiles. Ouais. Et en fait, ça change complètement la façon de penser notre existence planétaire s'il y a des milliards d'autres planètes. À ce jour, on n'a pas trouvé de vie ailleurs, mais les programmes portant sur la question des origines de la vie dans l'univers se multiplient partout dans le monde. Et en France, on a en particulier un programme très très important qui est dirigé par Alessandro Morbidelli, qui vise à s'interroger sur les origines de la vie à l'échelle de l'univers.
Péric Pitroux, il y a eu aussi beaucoup de discussions, mais de controverses aussi, ne serait-ce que sur l'aspect écologique. La question de se dire, est-ce que vraiment Avatar est un film écologique ? Moi, je me souviens, on en avait parlé ici dans cette émission, d'ailleurs, avec une chronique de Camille Cronier, au moment de la sortie d'Avatar 2, où beaucoup disaient, mais c'est pas du tout un film écologique, parce que ça, d'abord, les moyens déployés pour le tourner sont absolument dantesques, ça prône aussi la technologie, beaucoup, donc au-delà de l'apparence écolo, il y a quand même une réalité qui est bien loin des considérations environnementales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là-dessus ?
Alors moi, je me positionne pas par rapport à la controverse parce que je pense qu'il peut y avoir des arguments intéressants des deux côtés. De fait, la fable écologique qui serait en fait l'idée qu'on observe un peuple qui se reconnecte à la nature et qu'il faudrait un petit peu suivre son exemple, je pense que c'est une vision qui est très réductrice. Ce que je propose dans le livre, c'est d'envisager l'écologie comme une relation entre les corps, les techniques et les milieux. Et si on l'envisage comme ça, on se rend compte que dans Avatar, c'est pas tellement l'idée de la protection de la forêt ou de la mer qui compte, c'est comment le film fait coexister différents milieux, des milieux naturels, qui sont en fait des milieux aussi socialisés par les Na'vi, et des milieux très artificiels. Et en fait, évidemment, on pourrait classiquement opposer ces deux dimensions de rapport à l'environnement. Mais je pense que la condition humaine et la condition planétaire est justement d'articuler le rapport au vivant et le rapport au milieu technique.
Après la forêt et la mer, donc ce sera le feu et les cendres, hein, c'est ça la promesse
du troisième. Le titre, en tout cas,
troisième. Ce sera un volcan Alors, qu'est-ce qu'on aura dans Avatar 3 ?
Dans le livre, je termine dans la conclusion en disant que je ne commenterai pas le trailer et que voilà, je ferai...
Il faut attendre demain.
Il faudra attendre demain où je pourrai effectuer effectivement regarder le film dans sa globalité.
Allez, Péric Pitroux, vous êtes notre invité aujourd'hui autour de ce livre « Comment habiter notre planète ? Une lecture d'Avatar ». On se retrouve dans un instant et puis vous répondrez aux questions et messages des auditeurs de la Terre au carré. Bienvenue sur Pandora.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Vous étiez censé gagner les cœurs et les esprits des indigènes. Voilà ce qu'on attendait de votre théâtre de marionnettes. En parlant leur langue et en adoptant leur apparence, vous deviez gagner leur confiance. On a construit plusieurs écoles, on leur a appris notre langue, mais après des années passées sur le terrain, nos relations avec eux n'ont jamais été aussi mauvaises.
Oui, quand on utilise des mitrailleuses contre eux, c'est tout à fait normal.
Voilà pourquoi on est là. L'unobtanium. C'est la seule raison.
Comprendo ?
Cette bande de sauvages menace toute notre opération. On est au bord de l'affrontement et il n'y a que vous qui puissiez trouver une solution diplomatique. Alors exercez vos talents et trouvez-moi cette solution.
Extrait du premier Avatar. Péric Pitroux, vous êtes anthropologue et vous êtes notre invité avec ce livre « Comment habiter notre planète ? » C'est une lecture d'Avatar aux presses universitaires de France. Qu'est-ce que l'unobtanium ? Même chose pour ceux qui n'ont pas vu Avatar.
Et ben, c'est un minerai qui a aussi une valeur inouïe, un peu comme le liquide cérébral qu'on mentionnait il y a un instant. Et donc, sa valeur est tellement importante que ça justifie de lancer des expéditions interplanétaires pour aller en extraire quelques kilos.
Sur Pandora, en l'occurrence,
pour le rapporter sur Terre, où il a une valeur immense. Donc là, ce que ça met en scène, c'est le fait que les techniques qu'on développe pour interagir avec l'environnement, les vivants ou avec les minerais, eh bien, ces techniques, elles sont influencées par des institutions. Dans ce cas-là, c'est les systèmes économiques. Selon ce qu'on décide de valoriser, eh bien, on va privilégier tel ou tel type d'action.
Donc, le capitalisme existe aussi sur Pandora.
Alors, c'est même, je dirais que la triste réalité de Pandora, c'est qu'ils ils deviennent notre planète, dans le sens où il y a une tentative pour étendre la sphère d'action du capitalisme à une autre planète, en fait.
Et l'extractivisme, ça, c'est une question aussi importante. Hein, Cet exemple alors, de l'unobtanium.
Ce qu'on voit bien, il y a ici tout un ensemble d'échos à des situations coloniales, historiques et contemporaines où des puissances impériales s'approprient des territoires pour des simples raisons en fait, financières. Et ça s'accompagne en fait, de diverses façons d'organiser les relations avec les peuples autochtones. Depuis l'extermination, la guerre, jusqu'à une tentative pour, comme on l'a entendu dans l'extrait, prendre soin de ces populations, éventuellement les éduquer, les civiliser. Donc évidemment, pour mieux les dominer, pour que ils ne. En fait, il y a un moment, il y a un personnage qui dit que parfois, la guerre est plus coûteuse en fait que de réussir à pacifier une zone pour faire ce qu'on veut. Et donc, on a évidemment une mise en scène de situations coloniales qui sont hélas trop connues dans l'histoire de l'humanité.
Donc il y a cette question qui traverse votre livre et qui en est le titre, hein, « Comment habiter notre planète ?» Elle est simple, cette question, en apparence. Pourquoi elle est aussi centrale, d'ailleurs, aujourd'hui, Péric Pitroux ?
Alors, parce que la conscience des limites planétaires s'est développée à mesure que les humains ont développé la capacité de voir la planète depuis l'extérieur. Donc, c'est évidemment l'ère spatiale qui a créé un choc anthropologique majeur qui fait qu'on regarde effectivement notre territoire comme une sorte de totalité close. L'observation d'exoplanètes conduit aussi à voir, pour reprendre le mot que vous employiez tout à l'heure, la fragilité de la vie sur Terre, puisqu'on n'a encore trouvé aucune trace de vie ailleurs. On se rend compte que finalement, c'est un phénomène très très fragile. Mm-hmm. Donc il y a ce moment qui est, à mon avis, déjà un rapport en fait à la planète. Il y a aussi évidemment la proximité médiatique qui tend à réduire les distances et à donner accès à un ensemble de violences, à la fois contre l'environnement, mais aussi entre les humains, rend complexe la façon de se dire comment en fait on peut collectivement, en tant qu'humain, avec autant de cultures différentes, éventuellement des intérêts divergents, comment est-ce qu'on peut habiter sur notre planète ?
Oui, ça c'est une vraie question aujourd'hui, qui est absolument essentielle et vitale au sens propre du terme.
Oui, complètement, parce que...
Quand on parle d'habitabilité, c'est bien de ça dont il s'agit.
Alors, effectivement, je fais une analyse justement de la notion d'habitabilité à partir d'Avatar. en réunissant d'une façon un petit peu, je dirais, plutôt à la manière d'un exercice de pensée, différentes façons de penser l'habitabilité. Ça désigne d'abord l'habitabilité d'une planète, la proximité d'une planète par rapport à son étoile, qui permet que les conditions de vie seraient
possibles ou pas.
L'habitat écologique est une autre façon de penser l'habitabilité, c'est le fait que chaque être vivant habite dans des portions différentes des territoires. Évidemment, l'habitabilité renvoie à la construction d'environnements artificiels dans lesquels des humains ou des navires vont développer leur existence collective. Et donc, ce qui est frappant dans le film, c'est qu'on a clairement deux manières d'habiter la planète.
Radicalement différentes.
Hein. Radicalement différentes. Une manière qui est celle des navires avec des maisons qui sont même sans portes ni fenêtres, qui sont intégrées aux arbres et à la mangrove, avec cette idée en fait qu'il y a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur et que finalement c'est les conditions mêmes de la vie articulée au soleil qui sont respectées.
Avec les cycles naturels.
Avec
donc,
les cycles naturels, des matériaux biosourcés. Et par contraste, les humains apparaissent comme une espèce qui crée des environnements clos, des systèmes support-vie, des vaisseaux spatiaux, des caissons qui viennent se surimposer au milieu naturel.
Ouais. Donc tout ce qui sépare justement l'artificiel du naturel, ce sont les techniques en réalité. Hein.
Alors oui. Alors, différentes orientations de la technique. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut aussi souligner dans le film de Cameron. C'est qu'il ne faudrait pas imaginer qu'il y aurait d'un côté l'univers des technologies et de l'autre un univers qui serait naturel. En vérité, c'est ce que j'explique dans le chapitre 2, il y a une analyse contrastive de mise en miroir entre deux types de techniques.
C'est ça.
Les techniques humaines qui sont les armes, les moyens de transport, la technique avatar qui permet de faire croître déjà un corps hybride et le connecter à un cerveau. Et toutes ces techniques, finalement, sont des techniques et des biotechniques, le fruit d'un travail extrêmement élaboré de la part des humains. Mais ce que nous montre Cameron, c'est que les navires arrivent à atteindre les mêmes résultats avec des techniques qui sont différentes, c'est des techniques du vivant. Ils se déplacent dans l'environnement en se connectant à d'autres vivants, à des oiseaux, à des espèces qui ressemblent à des chevaux ou à des poissons volants. Ils ont eux-mêmes la capacité de se connecter à une sorte de mémoire générale, sans tout l'artifice des machines, juste en connectant leurs mèches de cheveux neuronales sur les arbres.
Mais c'est aussi de la technique.
C'est aussi de la technique, tout à fait.
On va écouter un autre extrait d'Avatar, du premier Avatar en 2009.
Je voulais seulement vous remercier d'avoir tué ces bestioles.
Ne dis pas merci. On ne dit pas merci pour ça. C'est triste, ça. Triste et seulement triste.
Bon, d'accord, excuse-moi. Si j'ai fait une erreur, je suis désolé.
Tout ça est ta faute. Les tuer ne sert à rien.
Ma faute? C'est eux qui m'ont attaqué, mais c'est moi le...
Ta faute!
Hé, hey, oh!
Ta faute!
Tu calmes.
Tu es comme un petit enfant. Tu fais du bruit et tu ne sais rien du tout.
Calme-toi.
Voilà, extrait du premier Avatar, donc en 2009. Péripitro, un commentaire aussi sur cet extrait?
Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a déjà une première remarque qui est que, au début, Jack Sully, lorsqu'il arrive sur Pandora, il est traité comme un enfant qui va devoir apprendre un certain nombre de techniques, de valeurs et le fonctionnement en fait de la société Navi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la première demi-heure du film, on se rend compte en fait qu'il y a une façon, comme souvent au cinéma, d'expliquer comment fonctionne un monde. Et là, ça consiste à dire à la fois comment fonctionnent les êtres vivants, comment fonctionne la société des Navi et comment fonctionnent les machines. Et donc, il y a tout un ensemble de règles qu'il faut incorporer.
Et les bestioles ?
Alors, les bestioles, on peut les envisager de façon, c'est-à-dire que si on les envisage comme le colonel qui accompagne l'entreprise d'extractivistes, lui, il décrit en fait les bestioles sur la planète comme des êtres qui sont là pour tuer, pour introduire une relation complètement antagoniste. Donc, pour le militaire, c'est tuer ou être tué, il n'y a pas d'alternative. dans la philosophie, ou en tout cas la conception de la vie, si on peut dire, il y a une idée beaucoup plus articulée à des alliances, à l'idée d'échange d'énergie qui circule entre les corps, l'idée qu'il y a un équilibre qu'il faut préserver.
Donc là, on revient bien à une philosophie qui est au cœur aussi de la réflexion terrestre, sur le lien aux autres vivants que les humains.
C'est pour ça que c'est un film, évidemment, profondément animiste. Alors, un animisme qui compose avec différentes sources ethnographiques. Je ne me suis pas amusé dans le film à repérer, je dirais, la fidélité avec des sources, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a l'idée qu'il y a non seulement un animisme matériel avec une circulation d'énergie, et il y a aussi un animisme spirituel avec l'idée qu'on interagit avec des non-humains, qu'on leur parle et qu'on établit des relations sociales avec eux.
Amis auditrices, auditeurs, avez-vous vu Avatar 1, 2 ? Allez-vous voir le troisième qui sort demain sur les écrans ? Qu'en pensez-vous, évidemment ? Cette réflexion autour de notre façon d'habiter le monde vous intéresse-t-elle ? Eh bien, faites-nous part de vos messages sur le site de la Terre au Carré. Et puis, pour vous entendre également avec l'application Radio France.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Ceux qui viennent du ciel nous ont envoyé un message. Ils disent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Et que personne ne peut les en empêcher. Eh bien, nous leur renverrons un message. Chevauchez aussi vite que le vent sait vous porter. Vous direz aux autres clans de nous rejoindre.
Et nous montrerons à ceux qui viennent du ciel qu'ils ne peuvent pas prendre tout ce qu'ils convoitent. Et que ce monde est notre terre à nous.
Avatar, premier épisode en 2009. Péric Pitrou, vous qui êtes notre invité avec cet ouvrage « Comment habiter notre planète ?» Une lecture d'Avatar. Vous écrivez que le cinéma est en lui-même un opérateur anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Je dirais d'une façon assez classique, que ce soit en montrant dans la veine un peu documentaire qui émerge des Frères Lumière, des endroits où on n'a pas eu l'occasion de vivre, déjà il nous permet de voir que ça se passe ailleurs différemment, ce qui est en quelque sorte renforcé aussi dans la fiction. Donc là, il y a un effet de comparaison entre ce qu'on vit et ce que les possibilités de vie qui sont développées sur la... sur la pellicule et dans l'expérience des films. Et alors, d'une façon plus précise, parce qu'on a beaucoup parlé en fait dans Avatar de la relation à la nature, mais en fait dans le deuxième épisode, quand on a la fuite de la famille de Jack de la forêt vers une société littorale, il y a tout un épisode où en fait l'apprentissage de Jack au premier épisode, cet apprentissage est repris en fait avec sa famille pour qu'il s'adapte en fait à une nouvelle culture. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui est plus un humain, une situation où l'humain s'adapte à une culture Navi. C'est au sein de la même espèce de Navi, il y a une différenciation culturelle. Et donc, il y a un processus d'acculturation qui fait que lui, ses enfants, doivent apprendre des techniques du corps pour se déplacer dans l'eau, de nouvelles relations aux animaux, une nouvelle économie. Et donc, cette dimension, à mon avis, est aussi une dimension très anthropologique.
C'est ça. Et la place du corps,
en
particulier. Hein.
Alors, tout à fait, effectivement, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'ajouter que parmi les techniques, il y a... une technique très universelle que Marcel Mauss avait identifiée d'une façon brillante, ce sont les techniques du corps. C'est le fait que le corps, comme il le dit, puisse être notre premier instrument pour marcher, pour nager, pour dormir.
Pour faire la guerre aussi, d'ailleurs.
Alors, pour faire la guerre, là, c'est une technique qui est à la fois outillée et une technique qui va être aussi profondément articulée à des machines. Mais en tout cas, les techniques du corps, qui nous semblent naturelles, rien ne nous semble plus naturel que de marcher. En vérité, il y a des manières, on apprend à marcher. On apprend à marcher en s'appuyant sur des processus biologiques. Et dans Avatar, premier épisode comme le deuxième, on se rend compte qu'il faut tout un apprentissage à la fois façonné par des conseils, mais aussi à un moment, il faut qu'on apprenne par soi-même à marcher dans la forêt.
À nager, évidemment, dans les lagons.
En réussissant à bien respirer et à ne pas s'asphyxier.
Au sujet de la guerre, justement, Péric Pitrou, parce que c'est un autre élément très important, la guerre des territoires, la guerre de conflits, la guerre pour accéder justement à de nouvelles ressources. Comment vous pensez cette chose-là, vous, en tant qu'anthropologue, et comment on le pense aujourd'hui au aussi dans cette idée d'habiter notre planète avec une actualité extrêmement forte hein, autour de tout cela.
Alors, c'est une question fondamentale. La guerre a beaucoup été étudiée par les anthropologues. Il y a tout un courant de l'anthropologie qui réfléchit à la notion de forme de vie et qui réfléchit en fait au fait que dans des situations de catastrophe ou de guerre, il y a une grande fragilité biologique des existences humaines, mais aussi de l'ordre social. Et donc, je m'appuie sur ces travaux, par exemple, d'anthropologues comme Vinadas ou Didier Fassin, pour montrer en fait que les ethnologues n'ont pas uniquement à aller étudier des sociétés éloignées, mais à étudier aussi la fragilité des sociétés humaines. Les phénomènes de guerre, les phénomènes de souffrance, qui, d'une certaine façon, ont été un peu invisibilisés par l'anthropologie au départ, eh bien, deviennent maintenant des phénomènes qu'on cherche à mieux comprendre, à mieux connaître.
En quoi ce sont des fragilités ?
Parce qu'il suffit de traverser une situation de catastrophe naturelle ou penser à Tchernobyl et des catastrophes liées aux technologies humaines pour se rendre compte que finalement les règles de solidarité, d'entraide, de justice peuvent être très rapidement mises en danger en fait. Mmh. Donc c'est une fragilité à la fois biologique mais sociale que les anthropologues peuvent étudier.
Ouais, il y a ces guerres évidemment autour des ressources naturelles hein, et l'eau évidemment est un élément très très important. Ça peut permettre aussi de se projeter un petit peu dans le futur, de regarder ce qui se passe dans une planète comme Pandora.
C'est vrai qu'on voit pousser à un extrême une situation dans laquelle, alors ça avait été bien analysé par Lévi-Strauss il y a quelques décennies, à partir du moment où on retire, enfin il y a une sorte de cohérence à retirer le statut d'humanité à certaines catégories d'habitants et le fait de ne pas respecter la nature. Et donc, on voit que dans ce film, il y a une guerre générale, en fait, que les humains mettent en place, qui est à la fois la guerre contre les navis, qui ne sont pas du tout traités comme ni des humains, mais ni même des personnes ou des sujets. On se dit, bon, voilà, ils sont à un endroit où ils ne devraient pas être. Mais dans le même temps, ça s'accompagne d'une destruction des forêts, y compris de l'arbre sacré qui est vraiment le lieu central de la société Navi. Et dans le deuxième épisode, ça s'accompagne d'une destruction des Tulkun, donc de ces baleines, ouais, qui sont considérées comme des frères et des sœurs par les habitants.
Ouais. Qu'est-ce que ça dit à l'anthropologue, ça, finalement, de voir que l'humanité, non seulement ne se contente pas de détruire sa propre planète, mais dès qu'elle en a l'occasion, va aussi détruire celle des autres?
Je pense que là, il y a vraiment un exercice de réflexivité sur la diversité des manières que les humains ont eu d'interagir avec leur environnement et que il y a des sociétés où les liens en fait qu'on a établis avec les animaux et les végétaux sont des liens sociaux. Et c'est pas l'être vivant n'est pas envisagé comme une matière qu'on peut aller exploiter, ou les sols ne sont pas envisagés comme un endroit où on vient juste extraire des richesses. Donc c'est un changement de regard en fait.
Ouais. Mais quand on voit l'argent investi sur de prochains voyages sur Mars par exemple pour essayer d'aller coloniser entre guillemets la planète Mars, en fait on va répliquer exactement ce qu'on fait sur notre planète.
De toute façon, c'est ce que montrent aussi les travaux anthropologiques actuellement sur un domaine en pleine effervescence qui est l'anthropologie de l'espace ou de l'exploration spatiale. C'est que les mêmes schémas en fait de économiques, sociaux, idéologiques, ont toutes les chances de se reproduire dans des recherches menées à l'extérieur de la planète Terre, que ça soit la Lune ou que ça soit Mars. Donc effectivement, c'est là où il faut aussi des récits alternatifs, de même que sur la planète Terre, nous avons des récits alternatifs qui passent par la politique, par aussi les sciences sociales, qui permettent de voir la diversité des manières d'habiter le monde, parce qu'on habite justement les milieux d'une façon qui n'est pas strictement naturelle. On habite avec des choix culturels, avec des valeurs qui orientent nos actions collectives.
Ouais, c'est pas un peu désespérant quand même pour vous qui êtes anthropologue de voir cette propension à quand même aller bousiller tout ce qu'on peut aller bousiller?
L'anthropologie, pour moi, est quand même un exercice de description du réel. Donc, j'évite de trop, me laisser gagner par
Vous pourriez avoir des émotions.
J'en ai beaucoup, effectivement. Mais effectivement, j'essaye de comprendre ce qui se passe y compris dans les travers les plus humains et pour mieux les comprendre.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Et on va commencer avec un message vocal qui vient de nous arriver sur l'application Radio France.
Bonjour, je suis Charlotte de Marseille. Alors moi, j'ai vu que le premier Avatar, mais ça m'éveille juste une question que je pose souvent et pour laquelle on se moque de moi parfois. J'ai jamais compris pourquoi des gens qui arrivaient sur une terre qu'ils ne connaissaient pas se sentaient supérieurs au peuple qu'ils découvraient et pas l'inverse. Voilà, et je crois que je me poserai la question toute ma vie. Merci, au revoir.
Merci Charlotte, et ça prolonge la discussion qu'on avait juste à l'instant, Péric Pitrou, hein, oui. Que ce soit sur une autre planète ou sur notre propre planète d'ailleurs.
Hein. Bah, c'est une excellente question, c'est pour ça que je mentionne aussi dans le livre « Race et histoire » de Lévi-Strauss, parce que reconnaître des différences culturelles, voire même des différences, je dirais, corporelles, bon, est une chose, mais les corrélé en fait à des jugements de valeur et l'affirmation d'une inégalité et d'une supériorité de l'espèce qui arrive. Oui. Effectivement, il y a quelque chose d'insupportable et qui est très humain, malheureusement.
Michael nous dit, concernant Avatar, il faudrait quand même parler du problème de la représentation des Na'vi, qui sont totalement inspirés des autochtones des Amériques, avec des stéréotypes tels que la connexion à la nature via leurs cheveux, et surtout du fait qu'ils et elles arrivent à survivre grâce à un colon qui devient l'un des leurs, car évidemment, ça ne serait pas concevable qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. La critique, dit Michael, du journaliste indigène canadien Jess Wendt est éclairante sur ce point.
Tout à fait, bah c'est un point que je mentionne dans le livre. On a reproché effectivement à Cameron d'avoir une vision extrêmement schématique des populations autochtones, qu'elles soient amérindiennes indienne ou océanienne. Ouais. Et effectivement, il y a eu des critiques assez fortes qui ont été faites, en particulier par des voix émanant des populations autochtones. Et je pense qu'il faut bien écouter et entendre ces critiques. Mmh. Et par ailleurs, effectivement, la narration qui consiste à conférer à l'humain qui vient en fait s'assimiler à une culture pour devenir en fait le chef de ces cultures est un scénario qui est on ne peut plus problématique.
Péric Pitrou, avant de se quitter, on va écouter un petit bout de la bande-annonce d'Avatar 3, ça sort demain, de feu et de cendres.
Regarde, il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Iwa n'en a eu que faire.
Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Wow.
Avatar 3 demain, donc James Cameron, et il y aura un 4 et un 5 d'ailleurs aussi, a
priori.
Oui,
c'est ce qui est prévu, oui, effectivement.
Pourquoi se priver alors que ça fonctionne si bien ? Comment habiter notre planète ? Vous signez ce livre autour d'une lecture d'Avatar aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, Péric Pitrou, d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
Dans la Terre au Carré.